Première étude dans la série des prophètes de l'Ancien Testament. Nous abordons et nous traitons aujourd'hui du livre de Malachie. Malachie est le dernier des prophètes dans l'ordre du canon de l'Ancien Testament, dans le rangement des livres de notre Bible. Et Malachie est aussi le dernier prophète chronologiquement parmi ceux qui ont été reconnus comme pleinement inspirés par Dieu. Le judaïsme lui-même a reconnu que dans les siècles qui ont suivi, s'il y a eu certains prophètes, entre guillemets, plus ou moins véridiques, il n'y en a pas eu qui méritent de figurer dans la Bible même. Il n'y en a pas eu pleinement autorisés par Dieu. Il y a une formule des rabbins qui s'énonce de la manière suivante, l'Esprit Saint a déserté Israël. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de prophète reconnu par tous. Malachie a été le dernier. Je vous rappelle que nous avons aussi décidé d'ajouter à la série de nos études sur les livres prophétiques une séance finale où vous pourrez apporter toutes les questions que l'ensemble de nos dimanches ont suscité dans votre esprit ou ont laissé dans votre esprit. Souvent nous avons manqué de temps pour le moment des échanges, les textes eux-mêmes étant si riches pour les résumer, nous avons pris à peu près toute l'heure. Alors nous avons maintenant au programme une séance en janvier uniquement consacrée aux questions que vous noterez à l'avance ou qui vous viendront sur le champ, mais de préférence notez-les à l'avance. Ce sera normalement le troisième dimanche de janvier. Après cela, nous prendrons d'autres sujets. Monsieur Sidamon m'a déjà parlé de sujets. Si vous en avez qui vous intéressent, vous pouvez aussi m'en parler. Mais en janvier donc, séance réservée à tous les prophètes, les grands et les petits de l'Ancien Testament. Je ne saurais pas forcément répondre aux questions que vous voudrez poser, mais comme j'ai l'habitude d'enseigner sur ces livres depuis pas mal d'années, je pense que je pourrais au moins éclaircir un certain nombre de points. Donc, je suis prêt à recevoir des questions même sans préparation spéciale. Si vous voulez me donner des bouts de papier avec vos questions à l'avance, j'en serais très content aussi. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, je laisse ceux qui arrivent s'installer. Je ne ferai pas de lecture préliminaire parce que nous allons faire plusieurs lectures en cours d'étude aujourd'hui. Je prendrai en général la Bible du Semeur pour ces lectures. Nous allons cependant prier pour que le Seigneur nous conduise, qu'il nous fasse bénéficier à plein de ce que nous passons ensemble, du temps que nous passons ensemble devant lui. Est-ce que Mademoiselle Sorante voudrait nous conduire dans la prière ? Amen. Malachie, c'est Billy Graham. Malachie prêche comme un boxeur boxe. C'est un petit peu le style de Billy Graham. C'est pour ça que je dis Malachie, c'est Billy Graham en son siècle, qui est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Malachie use d'un style extrêmement direct. C'est un prédicateur réaliste et qui ne cherche pas de circonlocution, qui appelle un chat un chat, qui va très fort, hein, direct du droit, direct du gauche. Malachie est un prophète qui polémique avec ses auditeurs. On peut dire que dans son livre, nous avons une succession de scènes d'affrontement direct entre le prophète et ses compatriotes, ses concitoyens peut-être, ça doit se passer à Jérusalem, en tout cas ses compatriotes dans le royaume de Juda. Il lance des arguments et il les reprend et il répond et Voilà, c'est comme un match. Comme un match de boxe. Il y a même plus que 5 de ces scènes, en particulier sous le 5e point, je pense qu'on peut en distinguer 2, peut-être même 3. De même pour ce que j'ai mis ici sous le 3e nom, parce que je vous ai mis le plan sur le tableau de papier, on peut dire qu'il y a deux affrontements dont les sujets sont liés. Et peut-être même aussi pour le numéro 2. Donc ça fait toute une série, vous voyez, de scènes pugilastiques entre le prophète Malachie et les judéens de son temps. On ne sait pas la date exacte, mais ça doit se tenir entre 450, peut-être 460 et 430 avant Jésus-Christ. Comment peut-on fixer une telle date? Le livre lui-même nous donne une idée de la situation. Or, c'est la situation contre laquelle Esdras et surtout Néhémie ont dû lutter, dont ils ont essayé de corriger les scandales les plus évidents à propos des dîmes, à propos des mariages, à propos de la manière dont finalement un peu tout se passait en ce temps-là. Vous vous rappelez qu'Esdras était un théologien, un scribe très très érudit en matière biblique, et il a été envoyé pour faire certaines réformes déjà et pour prendre la mesure de la situation, pour enseigner la loi de Dieu. Puis Néhémie était un haut fonctionnaire de la cour de l'empereur de Perse. Et il a obtenu de son empereur, apprenant que vraiment les choses c'était plutôt dégradé, en tout cas que c'était un peu la pagaille à Jérusalem, que la situation n'était pas brillante, il a obtenu de son empereur l'autorisation de partir en mission, muni de tous les pouvoirs nécessaires, dans cette lointaine province, pour relever les murailles, pour remettre de l'ordre. Et Néhémie a été 12 ans, au nom de l'empereur de Perse, gouverneur de la ville de ses pères, de Jérusalem, de 445 à 433 avant Jésus-Christ. Hein, plus on avance dans le temps, plus les dates diminuent, hein, puis c'est avant Jésus-Christ, de moins 445 à moins 433. Puis à ce moment-là, il a été rappelé à la cour de Perse, il y est resté un certain temps, on ne sait pas combien, il est revenu, il a trouvé que les choses en son absence étaient à nouveau beaucoup détériorées, il a dû agir très, très brutalement même, comme on le lit au chapitre 13 de son livre. Et combien de temps est-il resté à ce moment-là, lors de cette deuxième visite, on ne sait pas. Alors on pense, comme ce sont les mêmes abus que Néhémie a tenté de réprimer et contre lesquels le prophète Malachie s'est dressé au nom de Dieu, on pense qu'il a dû soit prêcher un peu avant l'arrivée de Néhémie, ou au début du séjour de Néhémie, soutenant l'action de Néhémie, donc 450, 440, soit pendant cet intermède où Néhémie étant reparti, ceux à qui sa poigne ne plaisait pas s'en sont de nouveau donnés à cœur joie, et peut-être que le prophète Malachie a prêché donc vers 432, mais on ne peut pas être absolument sûr, et ce que nous pouvons dire avec certitude nous suffit pour bien cadrer en quelque sorte le ministère de ce prophète, le dernier, donc je le répète, de la série. L'intérêt du livre pour nous vient, me semble-t-il, de son style si pratique, si net dans tous les énoncés, vient de la liberté qui ainsi apparaît des échanges dans ce qui était à l'époque le peuple de Dieu. Je pense que l'intérêt vient aussi de ce que les abus, comme j'ai dit, les comportements malheureux, les attitudes qui ne plaisaient pas à Dieu dans ce peuple, ne sont pas sans ressemblance, sans parallèle, me semble-t-il, dans l'Église chrétienne aujourd'hui. L'Église chrétienne aujourd'hui, dans nos pays en tout cas, comme le peuple qui était à Jérusalem, n'est pas en situation de persécution, n'est pas pourchassé, n'est pas écrasé par un envahisseur. les grands traumatismes de l'exil, la famine, les choses très graves, c'était des souvenirs du passé pour le peuple d'Israël à ce moment-là, vers 450 avant Jésus-Christ. Et de même, pour l'Église dans nos pays, il n'y a pas de drame extrêmement aigu. Mais en même temps, la situation n'était pas brillante, et on ne peut pas dire qu'elle soit brillante pour l'Église chrétienne aujourd'hui dans nos pays. Elle péclote, alors il y a des négligences, il y a des compromis. On ne va pas franchement vers l'idolâtrie, comme ça avait été la tentation d'Israël dans des siècles précédents. Non, on a quand même compris la leçon de l'exil. Mais le culte est un culte formel, extérieur, un peu négligent. On fait des compromis avec le paganisme. Et c'est peut-être la situation aussi de l'Église de nos jours. J'espère que ce n'est pas, mais qui sait. La situation de l'Église du tabernacle de nos jours. Alors, c'est pour nous intéressant, pertinent dans notre situation. Alors, premier de ces dialogues très polémiques, presque de boxe, entre le prophète et ses concitoyens, c'est à partir du verset 2, puisque le verset premier est un verset titre, à partir du verset 2, donc verset 2 à 5 du premier chapitre, un dialogue concernant l'élection d'Israël. Dieu avait déclaré à son peuple qu'il le choisissait. Élection veut dire choix. Que c'était son peuple choisi entre tous pour lui appartenir en propre parmi tous les peuples de la terre. Et c'était l'expression de l'amour de Dieu pour ce peuple et pour la lignée de ce peuple. Ça remontait en particulier au choix de Jacob parmi les deux fils d'Isaac plutôt que d'Ésaü, plutôt que celui qui aurait eu le droit d'aînesse selon la coutume de ce temps-là. Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob, c'est lui que j'ai choisi donc, et c'est sa lignée qui héritera de ma promesse. Et j'ai, alors la traduction du semeur dit, j'ai écarté Ésaü, duquel est né le peuple d'Édom, cela veut dire, je n'ai pas choisi lui. Moi je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous me demandez, en quoi donc, nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons sur ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux ils rebâtiront, moi je démolirai. On appellera à leur pays le territoire de la méchanceté. Le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Vous voyez la bagarre? Il y a cette vérité qui est proclamée depuis le temps de Moïse et même avant. Dieu a choisi cette lignée, la lignée de Jacob, le peuple d'Israël, plutôt que la lignée d'Ésaü, le peuple d'Édom et d'autres. Mais les gens autour de Malachie disent, ça nous fait une belle jambe qui nous est choisie. En fait, nous trimons tout le jour, la vie n'est pas drôle. En fait, qu'est-ce que c'est que cette élection? Qu'est-ce que c'est que ce prétendu amour de Dieu pour nous? Oui. Voilà leur réponse qu'ils citent. Oui. Et le prophète réplique en affirmant ce choix de Dieu et en affirmant que la différence va se voir. Que fait l'élection divine? De fait, dans l'histoire, jusqu'à nos jours, Israël subsiste. Édom est oublié depuis des siècles et des siècles. Édom n'existe plus comme peuple. Quand on regarde une tranche d'histoire et superficiellement, comme le faisaient les Israélites, oui, il peut sembler que l'élection, ce n'est que des mots, que finalement, Dieu n'agit pas. Le regard peut s'accrocher à des faux-semblants lorsque il n'a pas de discernement dans l'histoire. Mais finalement, Dieu s'affirme comme celui qui est grand, le grand Seigneur, par-delà toutes les frontières. Il marque la différence dans l'histoire. Voilà ce que réplique le prophète. Et je pense que ça peut s'appliquer à nous facilement. Je crois que nous sommes tentés, peut dire, nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes le nouvel Israël, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous appartenions à Jésus-Christ et que nous constituions son peuple avec Jésus-Christ comme tête. Mais quelle différence ça fait? Finalement, nous avons tous nos problèmes comme nos voisins. Nous sommes au Seigneur, mais nous sommes quand même au chômage. Bon, vous voyez, bien des gens peuvent raisonner comme le faisaient les concitoyens du prophète. Et la même réponse est valable. Oui, à court terme, quand on voit les choses superficiellement, sans voir le tout, sans attendre, sans avoir la patience d'attendre, il peut sembler que l'élection divine n'est pas vraiment efficace. Mais attendons, le Seigneur, dans son amour souverain, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé mon peuple que j'ai choisi, montre qu'en effet, il accomplit ses promesses. C'est le thème du premier face-à-face entre Malachi et ses concitoyens. Le ou les deuxième face-à-face, parce qu'en fait, il y a deux thèmes qui sont quand même assez distincts, entre 1.6 et 2.9, concernent le culte offert à l'Éternel. Le culte offert à Dieu, dans une première partie, celle qui se trouve au chapitre 1er, par les fidèles, par les adorateurs, et dans une deuxième partie, par les prêtres, ou parfois certains disent sacrificateurs, par ceux qui officient par ordre de Dieu dans le temple. Le prophète a ce même dialogue polémique maintenant, avec les adorateurs d'une part, avec les prêtres d'autre part, sur la question du culte. Et alors, que dit-il d'abord aux adorateurs? De nouveau, il s'agit de plaintes que ces adorateurs font entendre à l'égard de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres, et puis les autres adorateurs. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est le respect qui m'est dû, vous qui me méprisez? Et puis vous demandez, en quoi avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Oui, c'est très clair. Oui, on offre un culte à l'Éternel. On lui offre des sacrifices, adorateurs et avec la complicité des prêtres. Mais Dieu a dit que les sacrifices, les bêtes qui lui étaient offertes, devaient être sans défaut, aucun. Or, que font les Israélites à l'époque? Quand ils ont une bête avec un défaut, qu'ils ne pourront pas vendre bien cher à la foire, celui-là il sera assez bon pour la table du Seigneur, pour le sacrifice. Après tout, Dieu, qu'est-ce que ça peut lui faire, hein? Donc, nous pouvons donner le second choix au Seigneur. Et le prophète réplique qu'il s'agit d'un véritable mépris pour le Seigneur. Sans doute, il ne disait pas, dans ces mots même, la table du Seigneur est méprisable. C'était beaucoup plus hypocrite. C'était leur façon de faire, concrètement. Et sans doute avec des paroles négligentes, ça ira. Qui signifiait qu'il méprisait la table du Seigneur, qu'il méprisait l'honneur de Dieu auquel il prétendait offrir des sacrifices. Et le prophète réplique alors, vous voyez, très très fort, mais vous voulez rire, Est-ce que c'est vraiment ça? Honorer le maître? Honorer comme des fils le père? Est-ce que c'est... Vous savez bien que c'est pas le cas. Essayez d'offrir ça à votre gouverneur. Vous voyez, le réalisme, le bon sens que met Malachi là à la répréhension de ses contemporains. Je pense que L'application n'est vraiment pas difficile. Que donnons-nous au Seigneur? Donnons-nous au Seigneur vraiment un hommage digne de lui? Ou bien est-ce que c'est ce qui nous arrange, après tout, de lui donner quelque chose qui ne nous coûte pas trop? Bon, il coûte un petit peu, comme ça nous avons la conscience tranquille, mais c'est quand même le second choix. Et alors, en contraste avec cette conduite des Israélites de son temps, qu'il a autour de lui, le prophète dit au verset 11, « Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. » Mon nom, ma renommée, sera très grande au milieu des nations, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert, et des offrandes pures. Car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Que signifie ce verset? Bon, il faut savoir qu'en hébreu, les verbes ne se conjuguent pas comme dans le système français, et que la même forme verbale peut être traduite au passé, au présent ou au futur. Alors cette forme verbale, dans d'autres versions, vous verrez qu'elle est traduite plutôt au présent. Mon nom est grand parmi les nations, on m'offre des offrandes pures. Alors certains ont cru que le prophète ici, au nom de l'Éternel, faisait honte aux Israélites en leur disant que dans d'autres religions, dans d'autres pays, on lui offrait des sacrifices meilleurs, qui étaient des offrandes pures, que l'on honorait ainsi son nom. Certains, donc, se basent sur ce verset pour avoir, à l'égard des religions non chrétiennes, une attitude favorable en disant, ben, vous voyez, Malachie 1.11 nous dit que Dieu peut apprécier des sacrifices qui lui sont offerts dans les nations, et à l'époque, elles étaient toutes païennes, avec, donc, même son nom qui est par là honoré. Je ne vais pas entrer dans le débat des arguments en détail, dans ces séances nous ne pouvons pas, mais je vous assure qu'à mon avis, il n'y a aucun fondement sérieux à cette façon de comprendre le texte. Ça a été démontré en particulier par une spécialiste en Grande-Bretagne, Mademoiselle Baldwin, dans un article consacré spécialement à ce sujet, un article très érudit. Je crois qu'il n'est pas question d'admettre cela. Comme les pères de l'Église, d'ailleurs, au IIe siècle, l'avaient bien compris, c'est une prophétie. Et la Bible du Semeur a très bien fait de traduire au futur. C'est une prophétie, et une prophétie de quoi? Mais une prophétie de l'Église. Précisément, de ce nouvel Israël, Israël de Dieu, qui sera dans toutes les nations, et de toutes les nations, et où Dieu recevra le sacrifice de lèvres qui confesse son nom, car c'est de tels sacrifices qu'il prend plaisir. Vous vous rappelez ces paroles du Nouveau Testament? Du soleil levant au soleil couchant, de l'extrême Orient jusqu'à l'extrême Occident, Dieu se suscitera un peuple d'adorateurs qu'il adoreront en esprit et en vérité, et dont il agréera les sacrifices et les offrandes. Alors dans le Nouveau Testament, il est clair que ces sacrifices et offrandes ne sont plus des sacrifices sanglants, ne sont plus des sacrifices d'animaux, mais sont le sacrifice de toute la vie des fidèles du Seigneur, leur sacrifice de louange en particulier. Romains 12, verset 1er, chapitre aux Hébreux, dernier chapitre, nous avons des textes qui sont très, très clairs à ce propos. Donc c'est une prophétie qui nous concerne, mais la grande question c'est de savoir si le nouvel Israël est vraiment resté fidèle à cette prédiction, ou bien s'il retombe dans les ornières du vieil Israël avec son culte négligent, simplement extérieur, que dénonçait le prophète. La tentation est toujours là. C'est pas parce que nous sommes le nouvel Israël que nous sommes à l'abri, nous risquons de retomber, et donc c'est un appel pour chacun de nous. Après ça, c'est plus spécialement aux prêtres. Bon, les prêtres étaient déjà en cause, hein, parce que c'était avec leur complicité qu'on offrait ces bêtes qu'ils auraient dû refuser. Mais après ça, c'est spécialement aux prêtres, au chapitre 2, et pas tellement dans leur rôle sacrificiel que dans leur rôle d'enseignement. Ils sont pris à partie parce que dans l'enseignement, ils n'ont pas agi selon la volonté de Dieu. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Chapitre 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Autrefois, Dieu avait fait alliance avec l'ancêtre des prêtres, avec Lévi. Et Lévi avait accompli sa mission correctement. Le verset 7 précise cette mission. Le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous vous êtes écarté du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous, vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez des instructions. C'est très clair, hein? Mais de nouveau, pas besoin de faire de petits dessins pour expliquer le sens de ces termes. Mais de nouveau, quelle actualité! C'est solennel pour un enseignant comme je suis, hein, parce que nous n'avons plus de prêtres spécialisés dans l'Église chrétienne du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui a la sonnerie là, hein? Ah voilà, d'accord. Nous n'avons plus de prêtres, mais les serviteurs de la parole, quant à l'enseignement, reprennent le rôle des prêtres. Le Nouveau Testament nous montre bien qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui sont spécialement consacrés à l'office d'enseignement d'après la volonté de Dieu au sein de son peuple. Et donc, ce qui est dit ici peut s'appliquer aussi. Or, combien d'enseignants, de théologiens, qui précisément, par un enseignement qui s'éloigne de la Bible, un enseignement très souvent permissif, faussé, qui font tomber les gens dans le péché, qui fausse l'expression de la volonté de Dieu. Nous voyons à quel point Dieu considère que c'est sérieux. C'est pas, oh, les questions de doctrine, on n'a pas besoin de s'en occuper. Les questions de doctrine, c'est pour des Byzantins qui coupent des cheveux en quatre, mais ce qui est important, c'est qu'on se sente bien. Hein. Vous voyez à quel point Dieu considère que l'enseignement doit être selon sa révélation, de manière droite et pure. Voilà donc pour, j'ai mis comme deuxième partie sur ce tableau, et en fait il y avait deux face à face dans ce morceau, mais autour du même sujet. De même, il y a deux face à face, mais très proches l'un de l'autre, dans la troisième section qui tourne autour de la question du mariage. Et pour retrouver le thème de l'amour dans toutes les sections, en fait, sur le culte, il s'agit de l'amour qui manque, l'amour pour l'Éternel, qui devrait animer le culte et qui manque parmi les Israélites et les prêtres. Dans le passage qui concerne le mariage, c'est l'amour qui manque pour l'épouse. Épousée dans la jeunesse en particulier, l'épouse de ta jeunesse, comme dit le texte. Alors, dans les conditions sociales de l'époque, ça ne jouait pratiquement, à cause de la liberté que seul possédait le mari, dans le sens donc mari par rapport à la femme. Je pense qu'on peut dire que dans notre société, il y a la réciproque. Et donc les choses pourraient être prises en sens inverse de l'épouse à l'égard de l'époux. Premier point, ce qui concerne des mariages mixtes, des mariages avec des femmes étrangères. C'est du verset 10 au verset 12 de cette partie-là, donc au chapitre 2. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Dieu en position de Père, là, et accent sur unique. Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Judas a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne, en épousant des femmes adorant des dieux étrangers. C'est bien ça ce que ça veut dire. Littéralement, c'est la fille d'un dieu étranger. Mais ça veut dire des filles qui viennent de peuples soumises à des dieux étrangers et qui continuent de leur être attachées. que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendants, etc. Ce que le prophète réprime ici, c'est la transgression de la loi qui avait bien dit « Vous n'épouserez pas des filles du pays, des filles de toutes ces peuplades qui vous entraîneraient fatalement dans leur religion idolâtre. Vous ne pouvez pas tolérer de pareilles choses. » Mais dans cet Israël revenu de l'exil, réinstallé et un peu morose, c'est ce qui se produisait. Ce qui s'était produit même dans la famille du grand prêtre. C'est ce qui nous est dit au chapitre 13 du livre de Néhémie. C'est contre cela que Néhémie a agi quand il est venu la deuxième fois, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc ces mariages contraires à la volonté de Dieu. Mariage de compromis, donc. Ils ne devenaient pas idolâtres eux-mêmes, mais comme Salomon, le grand Salomon lui-même, l'avait fait, ils pensaient que bon, c'était leur femme, c'était pas eux, donc ils pouvaient quand même épouser des femmes étrangères. Néhémie rappelle que l'exemple de Salomon a été un exemple funeste, que Dieu ne l'a pas approuvé. Il le dit dans son discours indigné du chapitre 13 de son livre. Donc ça, c'est le premier comportement que dénonce Malachie. Et puis le deuxième, alors, c'est la coutume du divorce, qui était devenue très fréquente, et sans doute liée au mariage avec des étrangères, comme la plupart des commentateurs le pensent, sans doute certains israélites qui avaient une épouse qui s'était un peu usée au travail, eh bien la renvoyaient pour épouser une jeune étrangère qui leur plaisait davantage. Donc les deux sujets sont extrêmement proches dans ce passage. Voici une autre faute que vous avez commise, je lis au verset 13. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Et vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Très intéressant ce préambule. Il montre que la piété, aux yeux de Dieu, ça ne se mesure pas en pleurs et gémissements. Ce n'est pas l'intensité de l'émotion qui fait la valeur de la piété. Je crois que de nos jours, il est assez fréquent que des gens mesurent par là si vraiment le Saint-Esprit était à l'œuvre. Si les gens pleuraient, alors là, c'est vraiment qu'il y avait le Saint-Esprit. Vous voyez qu'ici, ces pleurs sur l'autel, ils sont sincères. Et ils se demandent pourquoi Dieu ne nous entend pas. Ça n'émeut pas le Seigneur. Ils peuvent être très émus eux-mêmes, ça ne vaut rien, étant donné que dans le comportement, il y a un tel éloignement de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est que l'alliance, car elle est appelée alliance, l'alliance entre un homme et une femme dure toute la vie. C'est l'image de sa propre alliance avec son peuple, qui est pour l'éternité. Et donc, quand l'alliance entre un homme et une femme se casse, c'est comme un démenti de ce rapport que le Dieu a voulu établir, de reflet, d'image et ressemblance entre le modèle divin et puis la réalité humaine. Et Dieu y va très très fort. Car je hais le divorce, verset 16, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Renvoyer sa femme, c'est comme se maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Oui, Dieu, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, Jésus l'a dit, Matthieu 19, a permis le divorce. Dans certains cas, c'est un moindre mal encore par rapport à l'envers que peuvent être des vies de couple tout à fait opposées à ce que Dieu a voulu pour l'humanité. Mais ça n'empêche pas que c'est un grand malheur en soi, qu'un divorce est toujours quelque chose qui ne répond pas à la volonté de Dieu à l'origine pour l'humanité. Et Dieu dit, je hais le divorce, dans ce passage. Alors, dans le morceau, il y a une difficulté que je signale, et un point de traduction encore. Le verset 15 est un verset très énigmatique dans l'original, et très disputé parmi les commentateurs. La traduction de la Bible du Semeur est la suivante. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qu'a fait cet homme-là Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Donc, cette traduction, qui est une traduction que, l'interprétation que certains rabbins avaient aussi admise, suppose toujours ce dialogue entre le prophète et ceux qui sont devant lui. Et l'objection, vous dites, pas de divorce, pas de femme qu'on prend parce que la première est trop vieille, etc. Eh bien, mais il y en a un qui l'a fait. Et puis c'est notre père à tous que tout le monde admire, c'est Abraham. Abraham, alors que Sarah était vieille, il a pris Agar. Voilà l'objection que certains envisagent. Et alors, d'après cette interprétation, donc le prophète dit, il n'y en a pas un qui fait ça avec un reste de bon sens. Alors, objection, ah, il y en a un. Oui, il y en a un, mais lui, il cherchait une postérité, une descendance qui lui vienne de Dieu. Il voulait que la promesse d'avoir un descendant se réalise. Alors, comme Sarah était stérile, donc il a accepté d'aller avec Agar. Voilà l'interprétation. Pendant un temps, j'y souscrivais. À vrai dire, je me demande même si le choix de la Bible du Semeur ne vient pas de ce que ceux qui ont travaillé à la Bible du Semeur ont été plusieurs de mes anciens étudiants qui ont pu m'entendre sur ce point à l'époque où j'acceptais cette façon d'interpréter. Mais maintenant, j'ai changé. Je pense que une autre interprétation quand même est meilleure. Elle est indiquée en note dans la Bible du Semeur. C'est la dernière traduction qui est indiquée en note. Dieu n'a-t-il pas fait un seul être, chair possédant souffle de vie, et que cherche cet être unique? Une postérité de Dieu. C'est une traduction aussi possible. Je ne peux pas vous montrer comment, à partir de l'hébreu, on peut arriver à ces deux possibilités, mais je vous assure qu'elle est aussi possible. Et finalement, elle me semble meilleure. C'est une référence à la volonté de Dieu en Genèse 1 et 2. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient un seul être, chair et souffle de vie, qui est une descendance. Voilà la volonté de Dieu, c'est un rappel de la volonté originelle du Créateur, si c'est ça. Alors, à l'heure actuelle, je penche plutôt sur cette deuxième interprétation, ou vers cette deuxième interprétation, parce que la première est difficile. Abraham n'a pas répudié Sarah. En tout cas, il ne l'a pas répudié. Or, c'est dans le morceau qui concerne plutôt la répudiation, le divorce. Il n'a pas divorcé avec Sarah. Et si il a pris Agar, c'était la servante de Sarah et à l'instigation de Sarah. Alors, on peut difficilement dire qu'il a trahi Sarah. Donc, vous voyez, ça ne colle quand même pas très bien. Ou bien, si on dit que c'est Agar qui l'a répudié, parce qu'il l'a renvoyé Agar, après, sur l'insistance de Sarah, et aussi avec l'autorisation de Dieu. S'il a renvoyé Agar, on ne peut pas dire que c'était la femme de sa jeunesse. Puisque elle n'a pas été vraiment sa femme, elle a été une concubine au nom de sa femme, selon une coutume d'ailleurs qui était attestée dans le temps, et puis ce n'était pas de sa jeunesse. Alors donc, je pense que ça ne colle pas vraiment. C'est pour ça que je pense au bout du compte que la deuxième interprétation est meilleure. L'autre point concerne la formule qui revient, dans laquelle subsiste un reste de bon sens. Verset 15, « Restez donc dans votre bon sens, et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. » Et encore à la fin du verset 16, « Restez donc dans votre bon sens, et n'agissez pas en traître. » Le mot qui est traduit « bon sens » dans la Bible du Semeur, c'est le mot qui est habituellement traduit « esprit ». Esprit de Dieu, esprit de l'homme. Et bien que l'esprit inclue l'intelligence, que ce soit un sens du mot esprit dans la Bible, ça je le maintiens, je pense quand même que la traduction bon sens ne convient pas très bien. L'esprit a des connotations de puissance. dans, même lorsqu'il s'agit de l'esprit de l'homme. L'esprit de, c'est cette espèce de force intérieure qui anime sa personnalité, sa pensée, c'est pour ça que c'est aussi l'intelligence, mais aussi ses fortes émotions. La colère est parfois évoquée simplement avec ce mot. Calmer sa colère, c'est calmer l'esprit. Donc ça suggère les impulsions fortes, les émotions dominantes, comme les pensées qui dirigent la personnalité. Et littéralement, c'est pas rester dans, hein, c'est veiller sur. Faites attention à. Donc je crois que ce qui est traduit dans la Bible du Semeur, restez donc dans votre bon sens, c'est plutôt veiller à cette force intérieure qui vous anime, à vos pulsions, si vous voulez, à vos émotions, à vos pensées. Pour rester fidèle à la femme de votre jeunesse, maîtrisez-vous, cultivez la maîtrise des pensées et des sentiments. Je pense que c'est ça qui est en fait en cause dans ce passage. Et de nouveau, ça s'applique très bien. Ensuite, alors, je continue, section suivante, sur le jour attendu. Là, l'objection, oula, les arguments contraires des contemporains du prophète est très très clair. Vous lassez l'Éternel par vos discours, et puis vous demandez, en quoi te lassons-nous? C'est parce que vous dites, quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel, il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice? Nous voyons très bien le tableau, c'est tout à fait actuel. Des gens qui disent, oh, en fait, les méchants, ils s'en mettent plein les poches, tout va bien, Dieu s'en occupe pas, où est le Dieu de justice? S'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Ils se plaignent que Dieu tolère l'injustice, ne fasse rien, et le jour qui a été attendu, annoncé, il ne vient pas. Et alors là, le prophète réplique en annonçant précisément la venue du jour où Dieu réglera ses comptes, où Dieu manifestera sa justice, où il s'en prendra à tous ceux qui font le mal. Et en 3 verset 5, c'est particulièrement net. Je viens à vous en vue du jugement, je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères, contre les parjures, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me respectent pas, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous remarquez les péchés qui sont mentionnés ici? Vraiment, je crois que, par rapport à la chrétienté d'aujourd'hui, vraiment, ça s'applique très bien. Ce n'est pas les péchés peut-être les plus énormes, les plus atroces, ce n'est pas Hitler ou Staline, hein. Mais ceux qui trafiquent un peu avec l'occultisme, qui font un peu d'astrologie, mélangeant ça avec peut-être leur culte, les adultères, les parjures, qui disent quelque chose et puis qui ont menti, qui ne font pas, qui dépouillent l'ouvrier de son gain. Les patrons, ils ne sont pas équitables dans les rémunérations. Ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui profitent de la situation de ceux qui sont socialement démunis, qui violent le droit de l'immigré. Dieu va tirer justice. Puis d'autre part alors, pour ses fidèles, ceux qui veulent quand même le servir, que va-t-il faire? Ce ne sera pas si facile quand même pour eux. Ils vont devoir être purifiés, car l'amour de Dieu est comme un feu dévorant. J'ai utilisé l'expression « le feu terrible » de l'amour de Dieu. Vous vous rappelez que l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est aussi un feu dévorant, notre Dieu, un feu dévorant. Et le feu est une image pour l'amour dans toute la Bible. Ceux qui l'aiment, Dieu les purifie par sa venue comme par un feu. Et cela est dit, qui tiendra quand il apparaîtra? Il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. Il s'agit de nettoyer. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent. Et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Donc la purification que la venue du Seigneur implique pour ses serviteurs mêmes, qui seront à son service. Dieu les aimant ne les veut pas sales et plus ou moins encore attachés à des choses pernicieuses. Il les purifie. C'est ça sa volonté. Et alors, cette venue n'est pas seulement la venue du jugement, c'est la venue du juge, et du juge et sauveur, puisqu'il purifie. Et cela alors apparaît au verset premier. Je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi, et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Ah, c'est un passage extraordinaire. Dieu annonce qu'il va venir. C'est lui qui va purifier son peuple comme un feu. Et c'est clair que c'est lui, puisqu'il est appelé le Seigneur, et qu'il entre dans son temple. C'est surtout cette expression, son temple, qui, à mon avis, montre que ce doit être Dieu lui-même. Car ce qui caractérise le temple, c'est que c'est la maison de Dieu. C'est le lieu saint, c'est-à-dire qu'il lui appartient exclusivement à lui. S'il entre dans son temple, c'est Dieu. Et pourtant, il se distingue de Dieu, puisqu'il est appelé l'ange de l'Alliance ou le messager de l'Alliance. Le mot ange peut se traduire aussi bien messager. Messager de l'Alliance. C'est un envoyé. Vraiment, je ne vois pas comment les lecteurs juifs de ce passage peuvent l'interpréter. Il ne peut trouver sa réalisation qu'en la personne de notre Seigneur Jésus, qui est le Seigneur, qui est Dieu, venu dans son temple, et puis qui est en même temps envoyé par le Père. C'est seulement la vérité de la Trinité qui permet d'associer la distinction entre Dieu et cet envoyé, et l'union parfaite, l'unité entre eux, qui fait qu'il est le Seigneur, Dieu lui-même. Et puis ce Dieu envoyé par Dieu le Père, il est lui-même précédé d'un autre messager. Je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Donc Dieu vient comme lui messager de l'Alliance, Seigneur, mais avant lui vient quelqu'un qui lui prépare le chemin. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, ce messager a été clairement désigné, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au chapitre 1er de Marc, ce verset est cité pour dire que c'est lui. Et en Matthieu 11, attendez, non, c'est peut-être pas Matthieu 11, j'ai noté. Et dans un autre passage, cela nous est encore confirmé plus loin. Non, ça doit être Marc 9. Donc, deux fois, cela nous est dit en toute clarté, c'est lui. Et alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que mon messager devant moi, c'est le nom même de Malachi. Mon messager en hébreu, c'est Malachi. Et le nom du prophète, c'est Malachi. C'est son nom même qui est utilisé ici. Je vais envoyer Malachi devant moi. Je pense que le prophète a voulu jouer sur son nom. Probablement, d'après l'avis majoritaire parmi les spécialistes évangéliques, Malachi, Malachi, donc c'est une forme abrégée de Malachia, envoyé de l'Éternel. Mais ici, il emploie la forme qui correspond à mon messager, parce qu'il joue sur son nom. Lui-même n'est pas encore Jean-Baptiste, mais il est un précurseur de Jean-Baptiste. Il appartient à ce cortège de préparateurs qui ouvrent la voie pour le Seigneur. Il se situe lui-même dans cette histoire de la prophétie. Et en un sens, c'est la symétrie admirable du plan de Dieu. Le dernier des prophètes, c'est mon messager. Puis Dieu s'arrête d'envoyer des prophètes. Et puis, mon messager, Jean-Baptiste, de nouveau un prophète. C'est pour ça que les foules en Judée, vers l'an 27 de notre ère, sont tellement excités. De nouveau un prophète, après plusieurs siècles. De nouveau un prophète, et c'est mon messager, celui qui accomplit cette parole, pour ouvrir le chemin du Seigneur, qui entre dans son temple, qui purifie les siens, qui apporte déjà le jugement pour ceux qui ne se tournent pas vers lui. Voilà donc pour ce morceau qui C'est remarquable, une prophétie extrêmement précise. Et puis, alors, dernière section dans ce que j'ai mis avec plusieurs éléments sur la différence que fait la fidélité à Dieu, parce que Dieu aime ceux qui sont sérieux avec lui. C'est dans ce sens que j'emploie l'expression « l'amour qui vaincra ». Premier problème, celui des dîmes. Bon, ça fait partie des négligences des Israélites à l'époque. Comme ils offrent des bêtes de seconde qualité, ils ne sont pas non plus vraiment exacts dans l'obéissance au précepte de la dîme. Ils ne donnent pas au Seigneur ce que le Seigneur attend. Et Dieu dit, vous me volez en fait, vous me volez. Alors ils disent, en quoi te volons-nous? Et comment un homme peut-il voler Dieu? Mais Dieu réplique, et c'est ce qui est si beau ici, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est dans son amour que Dieu veut toutes ces dîmes. Il n'en a pas besoin, bien sûr. De ce point de vue-là, les moqueurs ont raison. Il n'en a pas besoin. Mais il le dit lui-même. Mais c'est parce que c'est pour lui le moyen d'ouvrir les écluses des cieux. C'est parce que si les gens sont sérieux avec lui, alors il peut, comme il le désire dans son amour, déverser avec surabondance la bénédiction. C'est là ce qui ressort de ce passage. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous n'avons plus à payer la dîme de la même façon, mais le principe spirituel d'un engagement sérieux avec Dieu demeure, et ce désir de Dieu de déverser la bénédiction sur ceux qui marchent avec sérieux avec lui. Je crois que c'est très clair dans ce passage. Et puis, le débat s'élargit en quelque sorte à partir du verset 13. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants. Tous ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Voilà la plainte. Ça ne sert à rien d'être fidèle, de bien obéir au Seigneur, de le suivre. Ça ne sert à rien finalement. Les autres qui ne le font pas, ils s'en tirent mieux. Voilà le discours qui est cité et contré par le prophète. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. L'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Il y en a quand même qui ne se laissent pas gagner, qui tiennent bon, qui résistent à la tentation de découragement, d'amertume, d'incrédulité. Et vous remarquez qu'ils se sont entretenus les uns avec les autres. Le prix de la communion fraternelle, des échanges, quand il s'agit de tenir bon dans cette tentation. Quand on est seul, on est très fragile. Tout le monde pense comme ça. Oh, Dieu, quand même, je ne peux pas tout seul avoir raison contre tous les autres. Mais quand on est même un petit groupe, on se soutient. Et en s'entretenant les uns avec les autres, les fidèles de l'Éternel sont capables de résister à la tentation. Et ils prennent date pour que leur fidélité au Seigneur, ils puissent en quelque sorte vérifier que le Seigneur y est attentif et qu'il fait quelque chose. C'est ce qu'il promet ensuite. Au jour où j'agirai, dit le Seigneur, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence, etc. Texte très beau qui nous montre à nouveau que ce n'est pas une affaire d'abord de loi. Dieu n'a pas un intérêt à ce que nous soyons obéissants. C'est son amour. c'est sa compassion de père pour les fils et les filles. Alors ça n'empêche pas le service, un fils qui le sert. Ça n'empêche pas l'obéissance, l'autorité. Dans ce temps-là, le père, il a de l'autorité, oui. Mais vous voyez, ce n'est pas une affaire de, quand même simplement de patron et de loi. C'est l'amour de Dieu. Il veut que ses enfants suivent la voie qui est la voie de la vie. Et dès qu'ils vont dans cette voie, alors il se réjouit d'avance de les bénir, de leur montrer son amour. Et il y a une magnifique promesse au verset 20. Pour vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme des veaux à l'engrais. une image qui est originale, qui n'est pas habituelle dans l'écriture, pour indiquer la joie des fidèles. Lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu peut accomplir ses promesses, comme les rayons d'un soleil printanier, le soleil de justice, et puis la liberté des enfants de Dieu. Vous voyez comment ces choses-là sont dites. Mais il faut être sérieux avec le Seigneur, et c'est ce que rappellent les tout derniers versets du livre. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier, voué par interdit. C'est le rappel donc des exigences de Dieu. Ce n'est pas un amour à bon marché, d'une vague indulgence que le sien. Et c'est le rappel d'un messager qui le précède, lui. Il est appelé Élie. C'est un nouvel Élie, bien sûr. Ce n'est pas Élie en personne. Pas du tout la pensée de la Bible que les personnes individuelles elles-mêmes reviennent. Mais il y a le nouveau David, il y a le nouvel Élie, le nouveau Salomon. Là, c'est le nouvel Élie. Ce n'est pas Élie le Tishbite, comme certains commentateurs ont remarqué. C'est un Élie. Et de nouveau, le Nouveau Testament nous dit clairement que ça a été Jean-Baptiste. Vous voyez, cette promesse à la fin du livre correspond à celle du début du chapitre 3. C'est le messager devant Dieu qui prépare le chemin devant lui, et c'est Jean-Baptiste qui a rempli ce rôle. Certains chrétiens, mais je crois par erreur, ont imaginé qu'Élie devait encore revenir, et même Élie en personne, à cause de cette parole. Je crois que si on lit les versets du Nouveau Testament qui traitent de ce point, il faut écarter cette interprétation. J'ai même l'intention d'écrire un petit article dans Fac Réflexion dans les mois qui viennent sur ce sujet précis, parce que l'idée fausse circule encore. Mais donc maintenant je n'entre pas dans le détail, c'est la fin de notre moment ensemble. L'important, me semble-t-il, pour résumer une dernière fois, c'est de se rappeler la force de l'amour de Dieu. Cet amour exigeant comme un feu, et le sérieux, du coup, qui nous est demandé dans l'engagement avec lui. Voilà donc un coup d'œil sur ce livre très intéressant, dans sa rugosité même, de Malachie. S'il y a une ou deux questions, juste maintenant, je peux essayer d'y répondre. Mais oui,
au niveau du Dieu, là, qui a répondu.
J'ai pas mal travaillé sur Malachie il y a juste quelques années, parce que j'avais fait une série à Londres sur le sujet. Alors j'ai effectivement des livres à signaler. Il y a le commentaire de Mademoiselle Baldwin que j'ai mentionné oralement tout à l'heure. Est-ce qu'il a été traduit sur Satan? Je ne me rappelle pas beaucoup, je n'étais pas là pour le lire. C'est dans la série dont Satan a publié un certain nombre de titres. C'est peut-être d'ailleurs que notre faculté va reprendre ces titres maintenant que Satan n'existe plus. Ça, c'est encore à voir, à négocier. Donc, son commentaire, mais c'est en anglais, en tout cas dans ce que j'ai moi à la maison. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Oui, c'est récent. Hein, oui, c'est de 6-7 ans. Ce sont des commentaires récents dont je parle. Alors, j'ai aussi ici mes notes prises d'un commentaire de Walter Kaiser. Qui est un évangélique américain, Malachi, God's Unchanging Love. Et ce Kaiser que j'ai rencontré, il était professeur près de Chicago pendant très longtemps. Il était doyen d'ailleurs même là, à la faculté de Trinity. Et puis maintenant, il est professeur dans la faculté où j'ai moi-même étudié autrefois. Gordon Conwell. Il s'appelle sur la côte est des États-Unis. Donc il y a son commentaire. Qu'est-ce que j'ai encore un élément de bibliographie. J'en ai utilisé un autre dans la série New Commentary on the New International Commentary on the Old Testament. Non, je n'ai peut-être pas là le nom de celui qui a écrit, mais il en existe un. C'est pas seulement sur Malachie, hein, c'est sur les prophètes de la Restauration. J'ai utilisé aussi Jones dans une. C'est pas un commentaire strictement évangélique. J'avais utilisé un petit ouvrage par M. Tadford Père sur les petits prophètes. Je crois que c'est un peu tous les petits prophètes. Mais il y a quelque chose sur Malachie. Je me rappelle que je l'avais utilisé pour lui. Alors en français, il y a des commentaires qui ne sont pas spécialement évangéliques, mais qui peuvent être utiles quand même. C'est Vuillemier qui a écrit sur Malachie dans le commentaire de la Chaugnesley. Voilà, donc, une réponse à cette question précise. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que c'est juste la fin de l'heure, donc c'est bon, si vous êtes d'accord.